Aujourd'hui dimanche, nous sommes le 2 juin, soyez les bienvenus. Le journal, bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous. Ils sont de nouveau sur le toit de l'Europe. Liverpool décroche pour la 6e fois de son histoire la Ligue des Champions, victoire 2-0 face à Tottenham. Les hommages sont unanimes après la mort du philosophe Michel Serres, le philosophe curieux, heureux de partager son savoir et optimiste sur notre époque. Nous irons en Roumanie pour suivre le dernier jour du voyage apostolique du pape François, en Israël où la colère monte alors que les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes en septembre prochain. Les détracteurs de Benjamin Netanyahou accusent le Premier ministre de vouloir échapper à la justice. La justice, justement, et le respect, c'est ce que demandent les 10 000 personnes qui ont manifesté hier à Lille, la communauté LGBT qui se mobilise.
Les invités de cette matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez Jacqueline Duhem.
Oui, l'une des figures majeures du XXe siècle dans le domaine de l'illustration pour la jeunesse, et son œuvre est exposée en ce moment à la Bibliothèque Fornet à Paris.
À partir de 8h20, le journaliste Pierre Aski, auteur à la fois d'un livre et d'un documentaire intitulé Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin, en rappelant que ce sera mardi, les 30 ans du massacre de la place Tiananmen.
France Inter.
Liverpool, couronné pour la 6e fois de son histoire.
Un 6e titre en Ligue des Champions pour le club anglais, la compétition européenne la plus prestigieuse. Les Reds ont battu Tottenham 2-0 dans une finale qui n'a pas offert un grand spectacle. Mais à Liverpool, Fanny Lechevestrier, cette victoire a suffi aux supporters pour plonger dans une nuit d'ivresse.
Fin du match à Madrid, c'est là que tout commence à Liverpool. Les fumigènes craquent, les drapeaux s'agitent, les corps dansent. Liverpool devient rouge de bonheur.
Nous sommes les meilleurs. On est la meilleure équipe au monde. Personne n'a pu nous arrêter.
C'est fantastique.
Fantastique, c'est absolument fantastique.
On a gagné.
Et c'est une marée humaine qui marche d'un seul homme dans les rues, comme pour mieux incarner l'hymne historique des Reds.
On attendait cela depuis tellement longtemps. Vous voyez cette atmosphère de joie dans la rue ? Bien sûr qu'on est fiers. Cette victoire, c'est tout Liverpool. On n'abandonne jamais.
Ne jamais abandonner, ne jamais dormir aussi, car si les regards se font de plus en plus hagards sous l'effet de la bière, au petit matin, la fête continue.
On ne va pas dormir, on va rester dehors avec la foule et on sera encore là pour la grande parade.
La chantonnie avant de courir, entonner une fois encore cette chanson entêtante. Allez, 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 en français. C'est dans le texte, devenu l'hymne de cette campagne européenne. À Liverpool, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Il était un philosophe populaire. Michel Serres est mort hier soir à 88 ans. Lui, qui était aussi membre de l'Académie française, n'a jamais arrêté de s'intéresser à notre monde. Un esprit optimiste sur l'éducation, l'écologie ou encore les technologies. L'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière était très proche de Michel Serres. Pour lui, sa volonté de partager son savoir était exemplaire.
C'était un homme d'une curiosité absolument insatiable. C'était pas un théoricien, c'était pas un homme qui avait une vision toute préparée du monde. Il aimait les contacts avec les scientifiques, lui qui était d'une formation comme moins littéraire, parce qu'il pensait que ce que la science nous a apporté au XXe siècle met en question la nature même de l'esprit humain. Il faut espérer que son exemple, son énorme souci du travail et de la connaissance, et surtout de transmettre cette connaissance, de ne pas être un égoïste du savoir. Je crois que cet exemple-là, il ne faudra jamais l'oublier. Il essayait d'être lucide et de garder un sens de l'humour. Il n'avait pas l'esprit de sérieux. Il n'affirmait pas des choses pour toujours comme des vérités qui seraient inscrites dans le marbre à jamais. C'était un esprit évidemment très cultivé et à qui son accent du sud-ouest apportait en plus beaucoup de charme.
Et sur le réseau social Twitter, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, réagit. Adieu Michel Serres, l'honnête homme par excellence du XXe et du XXIe siècle. Éclectique, humaniste et visionnaire, sa bonté se voyait et s'entendait, écrit-il. Une femme accuse le footballeur Neymar de viol. Cette Brésilienne a déposé plainte à Sao Paulo ce vendredi contre l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain. L'agression se serait produite à Paris le 15 mai dernier. Pas de déclaration de Neymar pour le moment. mais son père évoque un piège. Un homme de 32 ans originaire de Roubaix, jugé ce matin à Bagdad, un djihadiste français arrêté en Syrie avant d'être transféré en Irak. Il risque la peine de mort. 7 autres Français ont déjà été condamnés à cette peine. Certains ont fait appel, mais plusieurs ONG et des avocats dénoncent des parodies de justice. L'Association française des victimes du terrorisme rappelle également que ces prisonniers détiennent des réponses dans de nombreux dossiers judiciaires liés aux attentats en France.
En Israël, la tenue de nouvelles élections fait des remous.
Les Israéliens appelés aux urnes le 17 septembre prochain, la deuxième fois en 6 mois. Un casse sans précédent dans l'État hébreu. Les résultats de l'échec de Benjamin Netanyahou de former une coalition gouvernementale. L'actuel Premier ministre sorti vainqueur des élections et montré du doigt par ses opposants. Il est inquiété dans 3 affaires judiciaires, notamment pour corruption. Hier soir, Marine Vlaonic, des manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv.
Plantés sur une artère de Tel Aviv et quelques jours après la convocation de nouvelles élections, Nivi ne décolère pas.
Nous sommes très énervés. Le président aurait pu faire appel à quelqu'un d'autre pour former le gouvernement. Mais il ne prête pas attention à notre argent. C'est de l'argent public et tout cela va coûter très cher.
Le coût de ce nouveau scrutin, qui n'était pas obligatoire selon la loi, est estimé à près de 120 millions d'euros. Et ils sont seulement une poignée à exprimer leur mécontentement. Pas de leader de l'opposition présent, mais de simples citoyens comme Raïm, qui demandent la démission de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre a provoqué ces nouvelles élections, dit-il, pour se maintenir au pouvoir et échapper ainsi aux poursuites judiciaires qui le visent pour corruption.
Il est corrompu, et pardonnez-moi pour l'expression, mais il essaie de sauver ses fesses pour éviter d'aller en prison, alors que c'est là où il doit être. On ne veut pas qu'il rentre chez lui. On veut qu'il aille en prison parce qu'il mérite d'être puni.
Selon les premiers sondages, Benjamin Netanyahou est le favori de ces élections qui se tiendront en septembre prochain. Tel Aviv, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Et ce matin, l'armée israélienne confirme avoir tiré des missiles vers la Syrie. L'État hébreu indique que ces tirs sont des ripostes à des roquettes envoyées depuis la Syrie sur le plateau du Golan, une zone occupée par Israël. Le pape termine sa visite en Roumanie, 3e et dernier jour dans le pays pour le souverain pontife. Avant de rentrer à Rome, le pape François va à la rencontre de la communauté rome ainsi que la petite communauté catholique de rite byzantin, une église malmenée par le communisme. Mathilde Imberti, il va d'ailleurs béatifier 7 évêques tués par le régime.
Le pape François a été invité plusieurs fois en Roumanie, mais c'est la béatification de 7 évêques qui a finalement déclenché sa venue. Des évêques fusillés, morts de faim ou des suites de sévices subies dans les prisons communistes. En 1948, le régime de Staline supprime l'église gréco-catholique et l'intègre à l'église orthodoxe de force. Le pape François vient restaurer aujourd'hui ce passé douloureux au mémorial de la liberté de Blage où l'évêque local de l'époque avait refusé de se soumettre. L'église catholique a eu du mal à se relever du communisme. La moitié de la population s'en revendique dans la région de Blage avant le stalinisme, aujourd'hui un petit 5%. Le pape François vient les encourager à entretenir leur foi. Ensuite, il se rendra dans la petite paroisse de la communauté rome pour un autre moment très attendu de cette visite. Il a réservé à Rome à de maintes reprises une attention toute particulière à cette population, mais jamais encore chez eux. De Bucarest en Roumanie, Mathilde Imberti, France Inter.
En parallèle, Maureen, avec une ambiance festive hier pour des revendications bien sérieuses.
La 24e édition de la marche des fiertés a réuni près de 10 000 personnes. Emma Beneda, les revendications de la communauté LGBT sont encore très nombreuses.
La musique résonne dans les rues, les drapeaux arc-en-ciel flottent au vent. La marche des fiertés est un moment de fête et de solidarité, mais pas que. Marc est étudiant en art, c'est sa première Pride.
En tant que personne trans qui vit à la campagne, bah c'est qu'on se sent vachement seul. Et le fait d'être ici, d'avoir plein de gens qui sont comme nous, on se sent déjà moins seul, ça donne envie de se battre en fait.
La marche des fiertés trouve particulièrement son sens pour Frédéric, plusieurs fois agressé pour son homosexualité. Il est venu avec son mari.
On a beau gagner des droits, on est de plus en plus victimes de violences et rien que pour ça, nous devons être visibles. Tant qu'on ne pourra pas sortir décemment dans la rue, tenir son mari par la main, pouvoir s'embrasser sans que ça génère de la honte ou de la violence, alors chaque année, nous défilerons.
Cette marche est revendicative pour la procréation médicalement assistée pour les femmes lesbiennes et contre les violences LGBT-phobes. Louise Crépy est militant et handicapé. Son fauteuil et sa sexualité, c'est la double peine.
C'est un double combat parce qu'il faut savoir que chez nous, par exemple, le fait D'être hétérosexuel, c'est déjà tabou. Alors ne parlons pas des personnes handicapées, homosexuelles, lesbiennes et tout ça. C'est une double oppression.
Cette année, la marche fêtait les 50 ans des émeutes de Stonewall Inn. À l'époque, des bars LGBT de New York étaient régulièrement visés par des descentes de police.
Et l'année dernière, en France, les actes homophobes déclarés ont augmenté de 15% selon SOS Homophobie. Les choses très sérieuses commencent pour Benoît Paire, le Français en huitième de finale de Roland-Garros. Ce sera face au Japonais Kei Nishikori. Hier, c'est Gaël Monfils qui s'est imposé dans un duel franco-français face au jeune Antoine Wang. Chez les femmes, Serena Williams a, elle, été éliminée dès le troisième tour.
C'était le journal de Maureen Suignard. Le temps de ce dimanche.
La météo avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski, ce sera un début de changement aujourd'hui dans le sud-ouest de la France ?
Non, dans le nord-ouest de la France, avec un ciel plus encombré aujourd'hui sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie, éventuellement des pluies faibles sur le Finistère et des températures en léger recul par rapport à hier, alors que partout ailleurs, les thermomètres n'arrêtent pas de grimper. 24 à 27 degrés cet après-midi sur les côtes, 30 à 34 dans l'intérieur. Il est par exemple prévu 31 dans le nord et en moyenne vallée du Rhône, 32 dans la capitale et en Franche-Comté, 33 en Rhône-Alpes, sur la Bourgogne, le Limousin et dans le quart sud-ouest, 34 sur l'Alsace et le Cher. On notera des nuages côtiers parfois persistants des Charentes aux Landes et ce soir des averses ponctuées d'éclairs possibles après la chaleur de la journée, notamment sur un axe Aquitaine, centre, bassin parisien, frontière belge.